On continue dans l'Épître aux Romains. Donc, la dernière fois, je vous ai dit, Épître aux Romains, chapitre 9, 10 et 11, ça concerne le peuple d'Israël. Paul a déjà tout expliqué concernant l'Évangile. Il reste une seule, enfin, il reste deux choses. Premièrement, il faut croire. Maintenant qu'il a tout expliqué, eh bien, on accepte ou on le rejette. Il faut croire. Donc, chapitre 9, 10 et 11, le message. C'est, oui, d'accord, Israël, Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël. Il y a toujours quelques Israélites qui font quoi? Qui croient. Et Paul se donne un exemple. Et puis, une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut vivre comme chrétien. C'est les deux choses qui restent. L'Évangile est là, présenté dans chapitre 1 à chapitre 8. Chapitre 9, 10, 11, c'est, voilà, il faut croire. Trois chapitres sur ce sujet. Il faut croire. C'est la nécessité de la foi en Jésus-Christ. Et puis, le reste du livre, c'est la mise en pratique pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc là, ce matin, on est dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, on va voir à partir de Romains chapitre 10, verset 1, et on va s'arrêter dans chapitre 11, verset 6. C'est le 21e message sur l'Épître aux Romains. Donc, comme je viens de dire en beaucoup de mots, hein, Romains chapitre 10 poursuit le sujet de la nécessité de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. La justification du pécheur ne peut venir d'une loi, ni du zèle, ni des œuvres, ni de la volonté des parents. Dieu justifie celui qui croit en son Fils Jésus-Christ. Seulement celui qui croit, que quelle que soit notre origine, toute personne qui croit à l'Évangile sera sauvée. Ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qu'il invoque, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, notre message est celui de la foi en Jésus-Christ. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, Christ est mort pour tous. Pourquoi? Parce que tous sont morts. Ceci signifie que Christ veut donner la vie à tous par l'Évangile. Et puisque l'Évangile est donc pour tous, il faut que l'Évangile atteigne tout le monde. D'ailleurs, Jésus a commandé à nous les croyants, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il faut annoncer l'Évangile afin que les gens entendent la parole et soient sauvés. Nous ne sommes pas responsables pour la réponse des gens. Qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, ça c'est leur décision. Mais sans message, ils n'ont pas d'espoir. Si vous trouvez que les gens de votre région sont désintéressés ou même hostiles à l'Évangile, prenez pour modèle la patience de Dieu concernant Israël, que nous allons voir dans ce passage. J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Ok, Romains, chapitre 10, et verset 1. Romains, chapitre 10, je commence la lecture avec le verset 1. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire pour Israël, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc Paul exprime ici son désir que ses anciens confrères soient sauvés. Bien qu'ils sont zélés, ils ont mécompris les Écritures sur le point précis du salut. Ici, ce mot sans intelligence, ça veut dire que leur compréhension était faussée. Ils pensaient que la loi enseigne le chemin du salut, tandis que non, la loi met en valeur la culpabilité. Les gens pensaient qu'avec un peu d'effort, ils arriveraient à se justifier. Un peu comme la plupart des gens religieux aujourd'hui, ils ne comprennent pas que toutes leurs œuvres sont souillées par le péché. Ésaïe chapitre 64, verset 5, Ésaïe 64, 5 dit, « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. » C'est pour cela qu'aucune personne ne peut ni se sauver, ni se justifier, ni se rendre parfaite. Le salut n'est nullement par les œuvres, et donc personne ne peut se glorifier. En revanche, et à la gloire de Dieu, le Fils de Dieu est venu. Il est venu ici-bas afin d'accomplir la loi et de subir la condamnation de la loi. Il a pris la place des pécheurs. Il est mort pour expier tous nos péchés. Le reste du chapitre 10, donc là, on a parlé de jusqu'au verset 4, mais tout le reste du chapitre traite de l'inutilité des œuvres et la nécessité de la foi. Okay? Donc les versets 5 à 13 vont élaborer sur les œuvres et la foi. Il faut abandonner les œuvres. Ça, c'est la repentance. Il faut abandonner les œuvres et il faut croire en Jésus-Christ. Voilà une conversion. Abandonner les œuvres et croire en Jésus-Christ. Autrement dit, pour être sauvé, il faut se repentir de la poursuite des œuvres inutiles. Et il faut avoir confiance dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Par la suite, dans les versets 14 et 15, on a une insistance sur la nécessité de l'évangélisation. Puis dans les versets 16 à 21, nous allons lire qu'il faut faire un choix. Il faut faire un choix entre nos œuvres et la grâce de Dieu. Et puis, par la suite, on va entrer dans chapitre 11, les premiers 6 versets, qui vont montrer que seulement ceux qui choisissent la grâce seront sauvés. Verset 5, Romains chapitre 10, verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Ça veut dire que pour obtenir la justice par la loi, il faut que vos œuvres soient parfaites, 100%. Sinon, c'est la mort. Verset 6, mais voici comment, par la justice qui vient de la foi. Donc on a cette petite paragraphe. Une citation, ce n'est pas exactement une citation, mais c'est une application ou une modification d'un texte dans Deutéronome chapitre 30. Ne dites pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Donc à l'origine, dans Deutéronome chapitre 30, c'est Moïse qui a adressé cette pensée à la seconde génération après l'Exode. C'est dans le Deutéronome. Il lui disait, en effet, qui n'avait besoin ni d'aller chercher un nouveau message au ciel, ni besoin de retraverser la mer Rouge pour retrouver le repère en Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu leur a déjà révélé son message dans les Écritures qu'ils avaient là entre leurs mains. Il fallait simplement croire. De même pour les Juifs à l'époque de Paul, ainsi que aussi pour nous-mêmes, Jésus ne peut pas redescendre sur la terre pour reprendre l'humanité, car il est déjà venu accomplir l'Ancien Testament. Il est déjà mort sur la croix et il est déjà ressuscité. Il ne peut pas ressusciter une seconde fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement croire. Verset 8. Que dit-elle donc? C'est-à-dire, que dit la justice qui vient de la foi? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Pour le peuple d'Israël, Moïse a dit qu'il fallait accepter la parole déjà révélée. Il fallait croire. Et puis il dit, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Donc, pour vous montrer, c'est vraiment ces trois chapitres, ça se repose sur cette question de la foi. Il faut croire, la nécessité de la foi en Jésus-Christ. Paul ne prêche que la foi en l'Évangile et rien d'autre. Il faut accepter la parole révélée par le Fils de Dieu. Il faut croire en Jésus-Christ. Verset 9. Si tu confesses, alors ce mot, confesser, c'est déclarer publiquement. Donc, par exemple, quelqu'un a volé quelque chose et donc le policier l'attrape et dit, tu as fait ça? Et on dit, oui, je l'ai fait. On confesse à ce crime-là. OK? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tout sera sauvé. Donc, il dit ça à l'inverse. Maintenant, il dit dans le bon ordre. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand on croit dans son cœur en Jésus-Christ, on est sauvé. Et puis, le reste de ce verset est vraiment mal traduit. Donc, il dit dans le texte que vous lisez devant vous, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce n'est pas du tout la bonne idée là. C'est de la bouche que l'on déclare publiquement son salut. On a déjà reçu le salut, mais c'est où? C'est à l'intérieur, il n'y a personne qui le voit. Comment les autres vont savoir que vous êtes chrétien? Il faut le dire. Donc vous dites, je suis sauvé, j'ai cru en Jésus-Christ. C'est une confession de foi, une confession de foi. Le verset 10 dit que on parvient à la justice, c'est-à-dire on est sauvé. Comment? Par la foi. Si tu crois de tout ton cœur, c'est ça que Philippe a dit à l'Éthiopien. Si tu crois de tout ton cœur. Donc, par exemple, tu aimes l'idée de Jésus, mais tu aimes Marie. Est-ce que tu aimes Jésus de tout ton cœur? Non. Si tu as la place là pour Bouddha et pour Krishna et pour Marie et pour je ne sais pas qui, eh bien, vous n'avez pas cru de tout ton cœur en Jésus-Christ. Tout ton cœur, c'est 100%. OK? Paul explique dans ces versets ce qui se passe quand une personne est sauvée. On reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu et on croit que le Fils de Dieu est mort sur la croix pour nos péchés et qu'il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Ça, c'est la Pâque, n'est-ce pas? Ayant entendu l'Évangile, il faut choisir de croire ou non. Il n'y a personne qui peut vous forcer de croire à l'Évangile. Celui qui croit est justifié, pas 10 ans plus tard. Il est justifié sur le champ. Sa foi s'exprimera par une confession ou une profession concernant sa conversion. Bibliquement, la première fois, cette confession prend la forme de l'immersion de nouveaux convertis. Hein, vous savez, dans les Actes des Apôtres, tous les croyants, les gens entendaient l'Évangile, ils croyaient et tout de suite, ils étaient baptisés. Nous, on n'a pas l'eau si à côté pour baptiser les gens tout de suite, mais on est sauvés tout de suite et aussitôt qu'on peut, on se fait baptiser pour montrer, pour faire une démonstration de notre foi en Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 8, on a un bon exemple, versets 36 et 37. Donc, on a demandé, « Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe a répondu, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Donc, voilà, on ne baptise pas les non-croyants. Si on est non-croyant, il n'y a pas besoin d'être baptisé. On ne prend pas les bébés et les baptise parce que les bébés ne sont pas croyants. Ils n'ont jamais eu la capacité, l'opportunité de croire en Jésus-Christ. Si tu crois, c'est un acte volontaire. De tout ton cœur, cela est possible. Et le converti a confessé, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Puis Philippe l'a baptisé. Il a baptisé le converti, le croyant. Toujours dans le chapitre 10 et verset 10, la seconde partie, selon ce que dit l'Écriture, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Ce n'est pas celui qui paye de l'argent, ou celui qui va à l'église, ou qui brûle les bougies, qui prie les saintes, etc. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc ça veut dire qu'il n'aura pas honte, il ne sera jamais déshonoré. Il n'y a aucune différence entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Et ce mot « invoquer », ça veut dire « appeler à l'aide ». Ce n'est pas l'idée que voilà, tout va bien chez moi, Jésus, tu peux venir à moi et je veux bien te accueillir et je te donnerai peut-être une place dans une chambre d'amis ou quelque chose. Ça, ce n'est pas l'idée. L'idée d'invoquer le Seigneur, c'est un appel de détresse. Peut-être quelqu'un dans l'eau qui est, il va mourir. Il va mourir parce qu'il va donc être submergé dans l'eau. Et donc, il dit, au secours! C'est ça, invoquer le Seigneur. Donc, verset 13, il dit, « Car quiconque, c'est n'importe qui, ça c'est moi et ça c'est vous, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Donc, le quiconque, ça signifie que l'Évangile est à la disposition de toute personne. Dans tout peuple, toute nation, toute langue. N'importe quelle personne qui croit en Jésus-Christ sera sauvée. Jésus est fidèle. Donc, vous pouvez lui faire confiance. Rien n'est plus clair dans ces versets que l'idée que Dieu offre le salut à toute personne. Il n'y a pas de limite à la grâce de Dieu, sinon l'incrédulité. Comme Jésus a bien dit dans Matthieu chapitre 12 et verset 31, « Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, sauf le refus du Saint-Esprit qui personnifie le salut. » Maintenant, Paul soulève un problème. Si le salut est pour tout peuple, que faut-il faire pour que les divers peuples reçoivent l'Évangile? Verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, qui annonce? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés. Donc, il y a une suite de cette pensée que je vais dire, et comment les envoyer s'ils ne sont pas disponibles? Si nous ne sommes pas disponibles pour servir Dieu, comment on va nous envoyer? Donc, la raison que Paul n'a pas dit cette dernière phrase, c'est que justement, être disponible est compris justement dans l'idée de cette profession de confession publique. Quand on croit en Jésus-Christ, un vrai croyant, eh bien, il professe, il dit, je suis croyant, Jésus m'a sauvé. Il n'a pas besoin d'être persuadé, d'être disponible. Il a l'opportunité, il dit. OK? Donc, quand Paul pose ces questions-là, eh bien, ce qu'il est en train de faire, c'est d'amplifier sur la grande commission du Seigneur Jésus dans Matthieu 28, versets 18 et 20, jusqu'au verset 20. Donc, je vais les lire. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Verset 18. Jésus s'étant approché, donc c'est après la résurrection, leur parla ainsi. Tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus dit, en allant, parce que c'est dans le grec, c'est un participe, c'est pas une commande, c'est un participe. En allant, donc quand vous allez au marché, quand vous allez dans le magasin, quand vous allez au travail, quand vous rentrez à la maison, en allant, faites des disciples. Ça fait partie de votre vie. En allant, faites des disciples. Chemin faisant, nous devons parler de Jésus autour de nous. Et nous devons aussi nous demander si le Seigneur désire nous envoyer ailleurs. Et si le Seigneur ne m'envoie pas ailleurs, ok? Si non, le Seigneur ne veut pas que j'aille ailleurs, eh bien, à ce moment commence le paragraphe qu'on vient de lire. Comment les prédicateurs vont-ils aller prêcher l'Évangile si nous ne les envoyons pas? C'est à nous de les envoyer. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il nous envoie. Nous sommes en route. Amen. Mes amis, êtes-vous disponibles pour servir Dieu? Et sinon, non, je ne suis pas disponible pour servir Dieu. Eh bien, il faut vous poser la question, pourquoi? Si vous n'êtes pas disponible à Dieu, pourquoi? Puis Paul va dire, toujours dans le verset 15, c'est la deuxième partie du verset, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Jésus lui-même a poursuivi sa pensée en disant, après ces paroles, il soufflait sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Ça, c'est dans Jean chapitre 20, versets 21 à verset 23. Donc, voilà, nous qui croyons en Jésus-Christ, en allant, donc chemin faisant, OK? Que nous annonçons la bonne nouvelle, ou que nous le retenons et on ne dit rien, eh bien, nous avons ce message, le pardon des péchés. Et il faut partager cette bonne nouvelle. Dans Actes chapitre 1, verset 8, Jésus a dit, donc, après la résurrection et juste avant qu'il ait retourné au ciel, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a pas de doute que le Seigneur veut faire connaître à travers le monde le sacrifice qu'il a fait pour enlever nos péchés. Dans le 18e siècle, les frères de Morave envoyaient des artisans comme missionnaires, les gens ayant un métier, afin d'évangéliser les régions éloignées du monde. À un certain moment, ils avaient plus de missions à travers le monde qu'ils avaient de membres en Moravie. Pendant 100 ans, ils entretenaient une chaîne de prières pour la mission 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sans interruption pendant 100 ans. Frères et sœurs, vous ne savez pas quels talents sont cachés en vous avant que ces talents deviennent utiles à Dieu. À la fin du 18e siècle, se trouvait en Angleterre un pauvre pasteur baptiste du nom de William Carey. Pour pourvoir aux besoins de sa famille, il était cordonnier et maître d'école. Le Seigneur a travaillé dans son cœur et il a lancé avec une douzaine d'autres pasteurs le plus grand mouvement missionnaire qui n'en ait jamais eu. Lui-même est allé en Inde où il a traduit la Bible entière dans 6 langues et des parties de la Bible dans 29 autres langues et dialectes. Aujourd'hui, William Carey est connu comme le père des missions modernes. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Donc on voit, il y a une double pensée là. Qui a obéi, qui a cru? Hein, c'est parce que quoi? C'est que l'Évangile est à la fois une invitation et une commande. Venez à moi, il faut se repentir. Donc c'est les deux en même temps. Déjà, dans le passé du peuple d'Israël, le peuple d'Israël résistait à l'appel de Dieu, tout à travers leur histoire. Et de même aujourd'hui, les gens continuent à résister, pas que les Israélites, mais les gens à travers le monde résistent à l'appel de Dieu. Seulement celui qui croit au message de Dieu en bénéficiera. Seulement le croyant sera sauvé. Verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce verset dit que n'importe quelle personne qui entend la parole de Christ, l'Évangile, peut être sauvé. Mais attention, veillez à ce que vous écoutez pour évaluer toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Tous ne prêchent pas la vérité. La foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est deux parties. La foi vient de ce qu'on entend, et pour être sauvé, il faut entendre la parole de Dieu. OK? Donc, cette première phrase, la foi vient de ce qu'on entend, signifie que vous allez croire à ce que vous avez écouté, ce que vous avez appris. Vous allez croire ça. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est entré. Okay? Jésus ne se trompe pas. Pourquoi les gens font-ils toutes ces pratiques religieuses et anti-religieuses? Eh bien, parce qu'ils ont écouté les hommes au lieu d'écouter Dieu. Les gens croient à ce qu'ils entendent. Si nous voulons que les gens croient en Jésus-Christ, nous devons annoncer la parole de Dieu. Il est impossible d'annoncer l'Évangile sans partager quelques versets de la parole de Dieu. Leur foi doit se reposer non pas sur votre raisonnement ou vos pensées ou vos oui-dire, mais sur la parole de Dieu. Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Donc ici, Paul invoque Psaume 19, où nous lisons que la création proclame l'existence du Créateur Dieu. Les gens de tous les peuples peuvent raisonner à partir de la création pour conclure qu'il y a un Dieu créateur qu'ils doivent adorer. Verset 19. Mais je dis, Israël, ne l'a-t-il pas su? Alors la question, est-ce qu'ils n'ont pas su que Dieu est le Dieu de toute la planète, de tous les peuples, et non pas seulement des Israélites? Moïse le dit premier, « J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. » Ici, la phrase « sans intelligence », ce mot-là, signifie que ces autres nations n'ont pas reçu directement la parole de Dieu comme l'ont reçu le peuple d'Israël. Donc, on a parlé de ça dans Romains chapitre 3. Israël est spécial parce que Dieu leur a confié les oracles de Dieu, les Écritures, mais aucun autre peuple. Et quand ces autres gens, sans révélation divine, reçoivent la parole de Dieu, en particulier la bonne nouvelle, eh bien, ils se réjouissent, ils sont contents. Et la conversion des païens provoque la jalousie du peuple d'Israël. Verset 20. Et Esaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. » Je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup comme Corneille qui a rassemblé sa famille et ses amis dans l'attente d'entendre le message évangélique. « Venez, venez !» Quelqu'un va venir nous expliquer le chemin de salut. Et bien, tous ces gens sont venus. Et même avant que Pierre a fini son prédication, ils avaient tous reçu le salut. Normalement, ce sont les gens occupés à leurs activités journalières qui sont interpellés par peut-être un traité que vous distribuez dans la rue ou par un prédicateur dans la rue. Je vois les frères à Paris, place Saint-Michel, qui tournent en rond là et prêchent la parole. Hein? Il peut y avoir des prédicateurs dans la rue, ou peut-être une visite à la porte, ou peut-être quelqu'un qui observe vous, qui vous observe depuis un moment dans votre vie quotidienne, hein? Qui est interpellé par l'Évangile. Verset 21. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle et contredisant. Dieu est patient. 2 Pierre chapitre 3, verset 19 dit que Dieu use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Chapitre 11, verset 1, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? » Et beaucoup de monde vont dire, « Oui, il les a rejetés! » Mais la Bible dit, « Non, loin de là, il ne les a pas rejetés. » Paul vient de dire que Dieu ne s'arrête pas de tendre la main. « Je tends mes mains tout le jour. » Ça veut dire sans arrêt, vers un peuple rebelle et contredisant. Nous voyons donc la patience et la persévérance de Dieu qui cherche à sauver le plus grand nombre possible du peuple d'Israël. N'importe qui du peuple d'Israël peut toujours se convertir et être sauvé. Paul en est l'exemple. Il le dit. Verset 1 toujours, « Car moi aussi, je suis Israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. » Il se donne un exemple. Voilà, je suis un Israélite qui a cru en Jésus. Je suis sauvé. Verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple. Il faut le retenir. Quand les gens vous disent autre chose, la Bible dit non. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc, dans le chapitre 9, on a déjà parlé de ceci. Cette idée veut dire que tous les Juifs qui sont sauvés sont les gens qui connaissent d'avance. Mais les Juifs qui ne convertissent pas n'entrent pas dans la question. Dieu s'intéresse à ceux qui s'intéressent à lui. OK? Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avant. Donc, c'est les personnes parmi le peuple d'Israël qui ont eu confiance en Dieu. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie? Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Verset 3. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Après, il n'y aura plus de croyants. C'est ça qu'il veut dire là. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est pas une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. OK? Donc, ce paragraphe montre que la plupart du peuple d'Israël ne voulait pas de Dieu. Ils voulaient autre chose. Ils voulaient pratiquer le paganisme. Cependant, Dieu n'a Il n'a pas, et il n'a jamais, et il ne rejettera jamais son peuple. Même à notre époque, même à cette époque-là, dispersé parmi le peuple d'Israël, se trouvaient, à cette époque-là au moins, quelques vrais croyants. Et là, il donne le chiffre 7000 en tout, à cette époque-là, OK? C'est 7000 croyants, et tous les croyants jusqu'au retour de Jésus, sont décrits par la phrase « l'élection de la grâce ». Le verset ne dit pas que Dieu les a prédestinés par sa grâce. Les deux éléments de cette expression, l'élection de la grâce, sont l'élection, donc le choix, et la grâce. Donc il y a le choix et la grâce. À mon avis, c'est le libre arbitre de chacun qui est en vue dans cet verset-là. Dans sa grâce, Dieu sauve dans toutes les nations quiconque fait appel au Seigneur. Il faut donc comprendre cette phrase que le pécheur qui choisit de croire à la grâce de Dieu sera sauvé. Donc, je vais répéter l'idée. Le pécheur qui choisit de croire à la grâce de Dieu sera sauvé. Donc, pour conclure, je vais revoir les points principaux du message. Donc, je répète, tous les trois chapitres 9, 10 et 11 focalisent sur Israël, mais pas Israël tout simplement, mais la nécessité de la foi. Romains chapitre 10 décrit donc les efforts du peuple d'Israël à se justifier à travers leurs œuvres. Et vraiment, ceci peut être appliqué facilement à n'importe quelle religion, même aujourd'hui. Au lieu de s'humilier devant Dieu, le Dieu Saint, hein, et accepter sa grâce par la foi, les religions proposent multiples œuvres dans l'objectif de satisfaire soit la divinité, ou au moins tranquilliser les inquiétudes des gens quant à leur état spirituel. Rappelez-vous de Romains chapitre 3, il n'y a point de juste, pas même un seul. tous sont égarés. Pour Dieu, il y a une seule question. Cette question n'est pas le nom de votre religion, mais votre relation avec son Fils Jésus-Christ. Quelle est votre relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Il faut croire en son Fils Jésus pour obtenir la vie éternelle. Ceux qui acceptent la grâce de Dieu par l'œuvre de l'évangile de son Fils seront sauvés. Ceux qui rejettent la grâce de Dieu, préférant œuvrer pour obtenir leur salut, seront perdus. L'apôtre Jean l'exprime ainsi dans l'Apocalypse. Il n'entrera chez elle, donc en parlant du paradis céleste, il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, donc Jésus étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis il dit aussi, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc ça c'est dans Apocalypse chapitre 20 et Apocalypse chapitre 21. Le chemin des œuvres, dont Paul lui-même avait été en quelque sorte spécialiste, oblige la perfection. Aucun homme n'est parfait. Bien au contraire, nous sommes tous pécheurs. Le chemin des œuvres, avec ou sans religion, n'aboutit pas au paradis céleste, mais en enfer. La grâce de Dieu par la foi en Jésus-Christ est le seul espoir. Regardez cet Israélite, non pas un homme religieux, mais un criminel. Le voilà, crucifié à côté du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de doute sur sa culpabilité, car il a confessé lui-même, donc déclaration publique devant tout ce qu'il voulait entendre. Il a dit, pour nous, notre condamnation et justice, car nous recevons ce que méritent nos crimes. Mais celui-ci, en montrant Jésus, n'a rien fait de mal. Et c'est ici que nous comprenons, ou au moins que nous voyons en action la grâce de Dieu. Car cet homme, qui n'avait aucun espoir, il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Ça, c'est dans Luc chapitre 23. Un juif, comme Paul aussi, un juif, qui s'est tourné vers son Messie, vers le Sauveur, le Christ. Non. Dieu n'a pas rejeté son peuple qui se tourne vers lui pour le salut. Comme on a déjà lu, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est pour moi, le salut est pour vous, le salut est pour tous. Il faut simplement croire en Jésus-Christ.